Eh bien, c'est parti, il est tout juste 13h passé de 15 minutes. Voici l'émission Erwan sous les flots.
Bonjour tout le monde, vous écoutez Erwan sur les flots. Vous vous souvenez de quoi j'ai parlé lundi ? De la route du Rhum. Oui, et il y a beaucoup de nouveautés. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Thibaut en direct par téléphone, notre envoyé spécial. Bonjour Thibaut, comment ça va ?
Salut, salut à tous. Écoute, ça va pas mal. On a aussi un peu de mauvais temps ici en Bretagne, des dépressions de l'Atlantique, mais nous on est au sec, donc c'est mieux que ceux qui sont en mer.
C'est très étonnant car cette course ressemble à l'émission 2002, où il y a eu beaucoup d'abandons, mais cette fois, on ne parle pas d'abandon, mais de stop de ces dépressions. Alors Thibaut, toi qui navigues, t'en penses quoi de ces skippers qui font des stops ?
Alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup de bateaux partir s'abriter soit directement en Bretagne, soit un peu plus loin sur les côtes espagnoles et portugaises. Bon, c'est vrai qu'au départ, il y avait des skippers qui étaient peut-être un peu moins préparés, avec des bateaux qui pouvaient au moins aussi. Et donc, ils ont préféré, au vu du mauvais temps, s'arrêter, attendre que le plus gros passe et repartir après. Il y a un peu d'appréhension, un peu de peur au départ. On avait beaucoup parlé du mauvais temps qui allait sévir sur le golfe de Gascogne. Voilà, ça explique tous ces arrêts au stand pour attendre que la tempête passe.
Mais c'est pas un peu dangereux parce que les bateaux qui sont à l'arrêt, bah, ils peuvent avoir plus de dégâts, non ?
Alors ceux qui sont partis se réfugier au port, donc il y a surtout beaucoup de classe 40, donc les plus petits bateaux, pour eux c'est plus compliqué d'affronter les grosses mers, donc avec les vagues, avec des creux de 4-5 mètres qui étaient annoncés, donc c'est facile de casser un peu la structure du bateau, ils ont préféré se réfugier au port et repartiront peut-être dimanche, il y a une fenêtre qui devrait s'ouvrir pour pouvoir repartir vers la Guadeloupe. Et en port, on est de toute façon plus en sécurité qu'en mer.
Alors avant de te retrouver, nous allons faire un pointage en commençant le classement. En ultime, des choses étonnantes sont arrivées. Lundi, Thomas Coville a cassé son bras reliant son flotteur à la coque. Du coup, il peut tomber. Mais il n'a pas encore abandonné et il va peut-être repartir. Sébastien Joss a perdu 8 mètres de son flotteur droit et lui, il a abandonné. Armel Leclerc a chaviré. Ça veut dire que le bateau s'est retourné. Il est aussi sorti de la course. Thibaut, tu peux nous expliquer ce qu'on doit faire quand on chavire ?
Alors le chavirage, c'est vrai que c'est un élément assez redouté des skippers. Le chavirage, c'est réservé aux trimarans et aux catamarans, donc aux multicoques qui participent à cette route du Rhum. Donc juste après le chavirage, que fait-on ? Déjà, on essaye de sécuriser un peu le bateau, de voir s'il n'y a pas encore des éléments qui peuvent taper sur la coque et nous mettre en danger. Donc, par exemple, le mât, des bouts de flotteurs pour les trimarans qui peuvent revenir taper sur le bateau. Et ensuite, la chose suivante, donc, c'est prévenir l'organisation de course et déclencher la balise de détresse qui permet d'envoyer un signal à terre qui est reçu par les organismes de secours et qui permet donc de mettre en place tout le système de secours pour sécuriser le marin et s'assurer qu'il soit sain et sauf.
Je reprends le classement. En outil 50, on a Thibaut Vauchel qui gagne. En IMOCA, c'est Boris Herman qui gagne. Comme je vous l'ai dit, Thibaut suit ça de très près pour nous toute la semaine. C'est notre consultant voile, coureur en classe 40. Alors Thibaut, quatrième jour de course, quatrième jour de gros temps, pour beaucoup des 123 skippers engagés sur cette route du Rhum. Nous avons assisté à beaucoup d'arrêts. Aussi, quelle est la situation en mer ?
Effectivement, quatrième jour de course sur cette route du Rhum et les conditions sont toujours aussi dures pour une grande partie de la flotte, toujours engluée dans ce golfe de Gascogne qui subit dépression après dépression. Donc seuls les trois ultimes restant en course sont sortis de ce système et filent maintenant vers les Alizés à plus de 30 nœuds. François Gabart en tête devant Francis Joyon d'une centaine de milles, donc comme tu l'as rappelé au classement. Beaucoup de cas sur cette édition qui peut effectivement faire penser un peu à celle de 2002, mais en pourcentage d'abandon reste quand même en dessous de la moyenne des éditions précédentes pour l'instant. Donc il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer pour autant. Même si c'est vrai que les classes 40, les plus petits bateaux et aussi les bateaux de la classe Rome donc ceux qui ne rentrent dans aucune autre catégorie, traversent une nouvelle dépression, un nouveau système dépressionnaire qui s'avance sur le golfe de Gascogne. Et donc on voit les bateaux qui ont plongé vers le sud pour essayer de contourner un peu cette nouvelle dépression, franchir ensuite l'anticyclone, donc des zones avec pas beaucoup de vent, et repartir dans les alizés au portant vers la Guadeloupe.
Et en fait, j'ai dit tout à l'heure que Thomas Coville avait perdu son bras reliant le flotteur à la coque. Tu crois qu'il va pouvoir réparer et repartir ou est-ce qu'il va
abandonner ? Alors, c'est une bonne question. Ils n'ont toujours pas donné leur abandon officiel. Donc pour l'instant, ils sont toujours en course. Ils essayent de faire un état des lieux des dégâts sur le bateau. Donc, est-ce que c'est juste la partie extérieure du bras, donc le carénage, qui n'a aucun effet structurel qui est cassé, voilà. Donc effectivement, on ne sait pas encore si les dégâts concernent vraiment la structure du bateau ou uniquement le carénage qu'il y a autour du bras. Donc on sait que toutes les équipes de Sodebo sont à la Corogne pour essayer de réparer. La fissure a l'air impressionnante, mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas forcément plus, mais ils n'ont toujours pas déclaré l'abandon.
On a vu la flotte décimée. Comment expliquer autant de casse ?
Alors déjà, faut rappeler quand même que les ultimes, qui sont ces trimarans volants, donc de plus de 30 mètres, sont toujours en phase de développement. Donc finalement, c'est plutôt normal qu'il y ait plus de casse que dans les autres classes. Donc Michel Desjoyeaux, double vainqueur du Vendée Globe, le disait encore hier, il faut accepter une phase de régression sur ces bateaux avant de parvenir à les fiabiliser complètement. Donc beaucoup d'arrêts techniques ou de mise à l'abri, c'est vrai. On a vu aussi le flotteur de Banque Populaire qui s'est cassé avant le chavirage. C'est ce qu'a raconté en tout cas Armel Lecléache. Donc c'est vrai qu'on a beau faire tous les calculs de structure sur ordinateur, calculs de matériaux pour voir si le bateau va résister. Une fois qu'on est en mer, les chocs avec les vagues sont très très compliqués à prévoir. Et donc, ce qui fait que dans le développement de ces bateaux qui sont tout récents, on a autant de casse. Pour autant, on voit que les IMOCA, qui sont eux plus habitués à naviguer dans ces conditions, sont toujours en course. On voit qu'ils sont plus en mode compétition que les autres. Donc, Alex Thompson, par exemple, qui a joué un très bon coup au départ, et a fait une excellente stratégie, et pour les autres la course continue même en mode survie.
Et en fait c'est vrai qu'on l'avait pas trop. Alex Thompson, lui, il a fait un bon coup, mais Boris Herman, on ne sait même pas d'où il est arrivé et il est passé premier. Du coup je trouve que c'est... T'en penses quoi de ce coup? T'as suivi un peu ce qu'a fait Boris Herman?
Alors c'est vrai que au départ on pensait que Alex Thompson pouvait vraiment creuser le trou avec son option très à l'ouest dès le départ. Il avait un meilleur angle pour redescendre ensuite vers les Alizés. Mais ensuite il y a cet anticyclone au sud des Açores qui bloque un peu la flotte et qui les a obligés un peu à plonger vers le sud. Et c'est ce que font maintenant tous les bateaux de la classe IMOCA, donc Alex Thompson, Paul Meya, Vincent Rioux et Yann Eliès, le quatuor de tête. Et on voit Boris Herman qui lui reprend de l'ouest, qui revient vers la route théorique. Est-ce que ça va payer ? Est-ce que ce sera le bon endroit pour traverser l'anticyclone ? Pour l'instant, c'est dur de le savoir, mais on va suivre ça avec intention.
Oui. Et le duo Meyer-Rioux pour une régate qui ne fait que commencer au gré des variations de vent. L'écart fluctue autour d'une soixantaine de milles en distance au but. Rien au regard des 2500 milles qui restent à couvrir. Mais nul doute qu'Alex va s'appliquer à conserver son écart en latéral, qui pourra se transformer en un petit matelas lorsque les bateaux feront route directe. Alors rapidement une question. En fait, c'est pas un peu le jeu de celui qui virera en premier qui pourra rejoindre plus rapidement la pointe à pitre ?
Alors c'est vrai que là, on assiste un peu à nouveau à tout le déploiement des stratégies des skippers. Là-dessus, Thompson a encore joué un bon coup puisqu'il a fait une très belle trajectoire en bordure de l'anticyclone, donc cette zone où les vents sont beaucoup plus faibles. Donc, il a pris la courbure comme il fallait et il a replongé vers le sud, donc il pourrait à nouveau gagner un peu d'avance sur ses opposants. Après, on voit quand même que Paul Meillat et Vincent Rioux, avec des bateaux qui sont pourtant un peu plus anciens, s'accrochent aux Gallois. Donc là, maintenant, ils vont arriver dans une zone où il y a des alizés, donc des vents de secteur ouest qui sont très instables, pas très forts. Donc on va encore voir aussi des séries d'empannages qui vont pouvoir creuser les écarts ou pas pour les skippers. Donc les prochains jours vont être très intéressants.
Oui. Tout leur consiste désormais à bien doser la trajectoire entre ouest et sud. Loffé pour faire de la route, mais pas trop éviter de tomber dans les griffes de l'anticyclone des Açores, que ces quatre-là commencent à contourner. Tu peux expliquer un peu ce que ça veut dire, loffé ?
Alors, loffé, c'est se rapprocher du vent. Donc, quand on navigue, on a le vent de face, donc où on n'avance pas, le bateau ne peut pas avancer. Ensuite, on a le pré, donc qui consiste à naviguer, comme son nom l'indique, près du vent, donc en remontant face au vent. Et donc, quand on loffe, c'est l'action de se rapprocher face au vent. Et donc, on peut observer sur les derniers jours que pour les classes 40, c'est ce qu'ils ont dû faire. Donc, ils ont dû loffer pour pouvoir contourner un peu ces dépressions très violentes avec des vents jusqu'à 80-90 km/h.
C'est beaucoup.
Et donc, ils ont dû se rapprocher du vent. C'est beaucoup de vent, beaucoup de mer aussi, avec au pré. Donc, les bateaux tapent beaucoup. Donc, plus de risques de casser aussi.
Samantha Davis, qui, à cause des vagues, a eu des problèmes. Et maintenant, on va parler un peu de la tête de flotte des IMOCA. Deux groupes se détachent clairement. Le quator de tête composé de Boris Herrmann, l'allemand, Alex Thompson, Paul Meillat, Vincent Rioux et Yann Eliès, qui on ne parle pas trop mais qui est bien parti, obliquent doucement vers l'ouest à la hauteur de Madère. Une bonne centaine de milles en retrait, un groupe de quatre poursuivants alignés d'ouest en est, opposés Stéphane Le Diraison, Alain Roura et Damien Seguin, Arnaud Boissière naviguant un peu en retrait. On va s'intéresser aussi en arrière de la flotte au plus petit bateau, la classe 40. Quel regard portes-tu sur la course et encore une fois les nombreuses escales techniques ? Comme toi, tu fais du classe 40, tu t'intéresses au classe 40, sûrement, alors tu peux nous expliquer ?
Alors oui, effectivement, on regarde avec attention la course. Donc pour les classes 40, encore enfermées dans cette nouvelle dépression, donc plutôt l'arrière de la flotte ou ceux qui ont dû faire une escale technique. Donc il y a cette nouvelle dépression qui devrait durer jusqu'à dimanche. Beaucoup de ces bateaux ont fait de l'ouest pour passer le front et pouvoir récupérer un vent nord-ouest au portant. Beaucoup d'escales techniques, encore, tu le rappelais, effectivement, une vingtaine de concurrents qui ont décidé de s'abriter sur la côte atlantique ou qui doivent réparer les dégâts causés par ces 4 jours de tempête. Quelques escales aux Açores également, peut-être notamment pour Maxime Sorel, mais il a confirmé qu'il ne s'arrêterait pas, qu'une cloison s'était fissurée, mais que c'était irréparable. Donc voilà, sur la tête de course, on peut dire qu'ils sont à peu près sortis, ils ont à peu près contourné la dépression, mais c'est pas encore évident.
Et pour les premiers, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont sortis d'affaires ?
Alors oui, effectivement, les premiers classe 40, les favoris qu'on voyait déjà au départ, Johan Richaume, Quito de Pavan, Arthur Levaillant, Fichard, le Britannique, donc eux, ça y est, ils plongent plein sud comme les IMOCA pour contourner cet anticyclone qui s'étend jusqu'aux côtes africaines et pouvoir après récupérer les alizés, même si pas loin derrière, on a encore des vents de entre 30 et 40 nœuds. Pour une grande partie de la flotte. C'est vrai que la tête de course arrive doucement à la sortie de ces systèmes dépressionnaires sur l'Atlantique Nord. Et donc, on va rentrer dans un mode un peu plus course et pas un mode survie qui devrait être très intéressant ces prochains jours. On voit Johan Richaume qui a été très très bon ces derniers jours. Quito de Pavan aussi, ils n'ont rien lâché. Et donc, ça va être une très belle bagarre.
Quelles sont les conditions de course et est-ce que les favoris répondent présents ?
Alors oui, effectivement, donc comme je l'ai dit, Johan Richaume est toujours dans sa course. Donc c'est un ancien figariste très propre sur l'eau. Il a plus d'expérience sur la gestion de son bateau et du bonhomme dans ses conditions de vent et de mer. On attendait également Nicolas Troussel sur un bateau très récent, mais qui a dû se dérouter pour réparer au sud du Portugal. Et on a d'autres skippers dont c'est la première transat, comme Arthur Levaillant ou Luc Berry, qui sont bien revenus dans le match, même si pour l'instant les conditions ne permettaient pas de faire de la régate. Quito de Pavant expliquait ne pas pouvoir avancer très vite dans une mer très compliquée avec des vents à plus de 40 nœuds. Donc voilà, c'est pas évident, mais on va se rapprocher d'un mode où les skippers sont plus en régate qu'en survie.
Oui, c'est vrai que Quito Pavant a une route très fine, et on pense aussi aux derniers. Ceux de la classe Rome Mono ou en multi qui ne sont pas prêts à sortir du golfe de Gascogne, mais qui tiennent bon et longeant les côtes pour s'échapper vers le sud. Et voilà, vous savez tout ou presque. Nous vous donnons rendez-vous ce lundi pour l'arrivée des premiers. Et malheureusement, Samantha Davis et Louis Burton ont dû abandonner parce que Louis Burton ne s'est pas senti capable. Et Samantha Davis avec un délaminage de coque. Et son compagnon Romain Atanasio qui, lui, part vers la Bretagne parce qu'il a déchiré toutes ses voiles. Alors, merci Thibaut.
Merci, à lundi. On se retrouve lundi. On devra avoir les premiers ultimes arrivés. Donc, on va vous faire suivre tout ça. Merci, Erwan.
De rien.
À bientôt et bon vent.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta.